Vous écoutez, on lit pour vous.
Le climat et nous. Quatre idées reçues démystifiées. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 9 mai 2025 dans la presse. Que puis-je faire au quotidien pour protéger la planète? Depuis un an, cette rubrique tente de répondre aux questions des lecteurs à ce sujet. Mais plusieurs semblent baisser les bras parce qu'ils ont le sentiment que les petits gestes individuels changent peu les choses. Voici les remarques que nous recevons le plus souvent et quelques pistes de réflexion qui peuvent influencer nos comportements. Je recycle, je fais mon compost, je fais déjà ma part d'effort. Près du quart des Québécois affirment faire déjà tout ce qu'ils peuvent au quotidien pour la planète, selon les derniers chiffres du baromètre de l'action climatique. Mais en fait, les gestes qu'on fait le plus souvent pour l'environnement sont généralement les plus faciles et les moins coûteux, a révélé l'année dernière un sondage Somme la presse, comme faire son recyclage ou remplacer ses ampoules traditionnelles par des DEL. Certains efforts, qui exigent un changement plus profond des habitudes de vie, mais qui ont aussi le plus grand impact, comme manger moins de viande ou réduire ses déplacements en voiture, sont encore adoptés par moins de la moitié de la population. Par ailleurs, il semble y avoir un décalage entre les efforts qu'on pense fournir et la réalité. Par exemple, 85% de la population affirme minimiser le gaspillage alimentaire. Mais en 2022, sur 3,1 millions de tonnes d'aliments jetés dans l'ensemble du réseau de distribution alimentaire au Québec, 28% provenaient des ménages, selon les chiffres de Recyc Québec. Pourquoi nous priver de confort alors que les riches se promènent en jet privé? En effet, les célébrités font souvent les manchettes avec des comportements aberrants d'un point de vue climatique. Le dernier en date, le voyage spatial de quelques minutes de Katy Perry et de 5 autres femmes ultra-riches le 14 avril 2025 a été dénoncé par plusieurs groupes environnementaux, dont Greenpeace. Ces voyages émettent une quantité colossale de gaz à effet de serre, GES. Mais c'est surtout leur impact indirect qui est le plus destructeur. Ils démotivent le reste de la société à faire des efforts et décrédibilisent les messages de sobriété envoyés par les gouvernements et les organisations pour lutter contre les changements climatiques. Mais, sans aller jusqu'à décortiquer le train de vie des millionnaires, on voit déjà dans la population québécoise que les ménages les plus riches, dont le salaire total annuel avant impôt est de 120 000 $ ou plus, polluent 3,4 fois plus que les ménages les plus pauvres. C'est ce que mettent en lumière les données les plus récentes de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ. Et en moyenne, l'empreinte carbone moyenne des ménages au Québec continue de croître au fil des années plutôt que de diminuer. Elle a augmenté de 3% en seulement 2 ans, entre 2017 et 2019. C'est au gouvernement et aux industries d'agir, pas aux individus. On le répète souvent. Ce n'est pas aux individus de porter à eux seuls le poids de l'action climatique. Néanmoins, cette réflexion peut aussi entretenir un cercle vicieux appelé le triangle de l'inaction. Les gouvernements rushing à adopter des mesures impopulaires ou touchant l'économie. Les entreprises disent répondre à la demande des consommateurs et respecter les règlements en place. Les citoyens affirment que leur impact est insignifiant et que c'est au gouvernement de légiférer et aux entreprises de polluer moins. En réalité, la transition ne pourra se faire qu'avec une action coordonnée de l'ensemble des acteurs de la société, rappelle le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, dans son rapport de 2022. Et les individus peuvent jouer un rôle central pour provoquer un changement de direction ou en accélérer le mouvement. C'est à la Chine de diminuer ses émissions, pas à nous. Il est vrai que lorsque l'on regarde les GES émis directement par l'industrie lourde et fossile sur le territoire de chaque pays, depuis l'ère pré-industrielle, le Canada est loin derrière la Chine, avec ses 35 milliards de tonnes de CO2 émis contre 273 milliards selon les données du site Our World in Data. Mais quand on divise les émissions par le nombre d'habitants, on observe qu'actuellement, la Chine émet près de 2 fois moins de GES par personne, 8 tonnes, que le Canada, 14 tonnes. En tenant compte des échanges commerciaux entre les pays, on arrive à 7 tonnes pour la Chine et 13 pour le Canada. Et quand on se compare aux pays riches, même s'il est parvenu à diminuer ses émissions de 7,1% entre 2005 et 2022, le Canada reste encore le membre du G7 le moins performant en matière de réduction de ses émissions de GES, a encore rappelé en novembre dernier le commissaire fédéral à l'environnement et au développement durable. C'était le Climat et nous, 4 idées reçues démystifiées, un texte de Chloé Bourquin, paru le 9 mai 2025 dans La Presse.
Des fleurs venues de loin, un texte d'Hélène Barry, paru le 17 mai 2025 dans La Presse. D'où viennent toutes ces fleurs qui apparaissent soudainement aux étals des marchands à certains moments précis de l'année? De loin. La presque totalité des fleurs coupées vendues au Québec est importée de la Colombie, de l'Équateur et des Pays-Bas, nous dit Nakula Lacroix, responsable des importations au marché floral, un grossiste montréalais qui approvisionne les fleuristes, les jardineries et les dépanneurs. La production locale en croissance est encore modeste et concentrée en Ontario, dit celui qui travaille dans le secteur depuis 1972. À Pâques, les populaires potées fleuries qui apparaissent sur le marché sont souvent produites localement dans des serres, dit-il. L'été, il y a un peu de production locale, mais le reste de l'année, le marché compte surtout sur les importations. Le Québec a importé pour 84 millions de dollars de fleurs en 2023, selon les statistiques officielles. À 90%, ces importations viennent de Colombie, d'Équateur et, de plus en plus, du Costa Rica, dit le spécialiste. Le reste vient des Pays-Bas, et ce ne sont pas uniquement des tulipes. Le pays produit d'autres variétés, et il est devenu, avec le temps, un carrefour d'expédition toute l'année pour les fleurs venues de toute l'Europe et même d'Afrique. L'industrie est réglée sur les pics de demande, surtout la Saint-Valentin et la fête des mères. Pour la Saint-Valentin, explique Nakula Lacroix, les producteurs de roses rouges se préparent dès le mois d'octobre en taillant leurs plants pour en retarder la floraison et arriver à temps. C'est pour ça que ceux qui veulent des roses à Noël ont de la difficulté à en trouver. Elles ne sont pas prêtes. La demande est moins forte à Pâques et elle est beaucoup servie par les plantes en pot produites dans des serres localement. À la fête des mères, c'est la frénésie chez les grossistes et détaillants. Mais contrairement à la fête des amoureux, la fête des mères ne tombe pas le même jour en Amérique du Nord et en Europe, ce qui permet d'étaler la demande. Pour arriver à livrer la marchandise à temps pour la fête, ça demande une grosse logistique, souligne Nakula Lacroix. Les producteurs coupent les fleurs et les envoient à l'aéroport, d'où elles s'envolent vers les marchés dans des cargos à température contrôlée. Les fleurs coupées vendues au Québec passent par l'aéroport de Miami, et font le reste du voyage en camion vers les grossistes. Entre les fermes de production florale et l'étal du fleuriste, le délai est court, une semaine ou un peu plus, ce qui a un prix. Le transport et la manutention des fleurs coupées représentent la moitié du prix de vente du bouquet, selon le spécialiste. C'était « Des fleurs venues de loin », un texte d'Hélène Paris, paru le 17 mai 2025 dans la presse.
La montée des info-influenceurs, un texte de Stéphane Baillargeon paru le 16 mai 2025 dans Le Devoir. Quand la journaliste Alexandre Drolette a été approchée il y a quelques mois pour participer à la table ronde « Les nouveaux conquérants de l'info » du Festival de journalisme de Carleton-sur-Mer, elle était à l'emploi de Radio-Canada. Quand elle va commencer à débattre, vendredi 16 mai 2025, à 11h30, elle sera finalement dans la même position de journaliste non affilié, indépendant, actif sur les réseaux sociaux, que les trois autres YouTubers ou TikTokers participants, soit les Québécois Émile Roy et Farnell Morisset, ainsi que la star française du genre Gaspard G. C'est mon inscription par Radio-Canada à ce panel qui m'a donné le go pour faire le changement de carrière auquel je pensais depuis quelque temps, explique la jeune femme de 27 ans. Madame Drolet a senti le contexte favorable pour faire le grand saut et elle voulait prendre de l'avance sur les concurrents qui vont immanquablement s'engager, selon elle, dans cette nouvelle voie numérique, ayant fait ses preuves par des dizaines et centaines de millions de connexions comptées partout dans le monde. Ça manquait au Québec, et je ne pense pas qu'il y a un marché pour qu'on soit 15 ou 20 à faire ça. Aux États-Unis, d'après le plus récent rapport de Triton Digital, les balados de YouTube sur les actualités comptent plus de téléchargements, 25%, que les histoires criminelles du genre « true crime », 19% et la comédie, 13%. En France, le YouTuber Gaspard G, présent à Carleton-sur-Mer, compte plus d'un million d'abonnés et domine avec Hugo Décrypte le peloton de tête des info-influenceurs. Alexandre Drolette cite ces deux modèles pour sa chaîne YouTube « Elle explique », qui va donc traiter d'actualité avec de courtes capsules pédagodynamiques. Le public cible est jeune et ne fréquente pas les médias traditionnels, boudent même souvent leurs plateformes numériques. La reporter et entrepreneuse revendique franchement la référence au modèle des influenceurs et compte donc bien créer des liens forts avec sa communauté, se mettre en scène, voire exposer une partie de sa vie privée. « Je vais faire un mélange d'influence et de journalisme », dit la diplômée de Concordia. Je n'ai pas de problème avec ce terme d'influenceuse. Ego Inc. 2.0. Le plus vieux routier, Dominique Arpin, qui a environ deux fois l'âge d'Alexandre Drolette, se revendique aussi de cette catégorie du marketing d'influence par les réseaux sociaux. Je ne suis plus journaliste. Mon métier principal, maintenant, c'est l'animation et la production télé, dit celui qui vient de célébrer la 20e saison de son émission « Vlog » présentée à TVA. « Je suis aussi influenceur, je le dis avec des gros guillemets. Je suis devenu un créateur de contenu pour les réseaux sociaux. J'ai des partenariats avec des marques, des trucs que je n'aurais pas fait quand j'étais journaliste. » La dernière fois que Le Devoir a interviewé Dominique Arpin, il participait à un débat sur l'avenir du journalisme à la conférence Webcom Montréal 2009. Il expliquait avoir quitté son emploi, permanent, syndiqué et grassement payé, pour se mettre lui-même en marché en misant sur sa marque personnelle, moussée par les nouvelles technologies. Bref, Mme Drolet, comme bien d'autres, avance sur ses traces. Les journalistes qui vont survivre à la crise auront compris qu'ils sont eux-mêmes un média, ajoutait le visionnaire. ils sont multimédia, multiplateformes aussi. Les journalistes qui ont un avenir sont des marques. La plateforme Substack, lancée en 2017, relaie des masses de balados et d'infolettres d'informations fournies par des influenceurs journalistes marques. Le site revendique 5 millions d'abonnements payants. La chaîne Alexplique comptait déjà plus de 4000 abonnés jeudi soir et il en faut 1000 pour commencer à monnayer les clics. Les revenus proviendront aussi de placements de lieux ou de produits. Madame Drolet dit n'avoir eu qu'à se promener dans un rayon d'un kilomètre de chez elle pour trouver des partenaires. À droite, toutes. Le sociofinancement offre une autre voie de développement aux nouveaux conquérants de l'info. Le Montréalais Chris Curtis a fondé The Rover au tournant de la décennie après avoir quitté The Gazette, où il se sentait à l'étroit compte tenu de son penchant pour les longs reportages terrain. Son Pure Player met l'accent sur le journalisme d'enquête et les textes de fond. Les gens peuvent s'abonner au courriel gratuit, lire les articles gratuitement ou payer pour nous soutenir par des dons, dit M. Curtis, associé à la direction de The Rover avec Savannah Stewart depuis 2023. Notre modèle d'affaires, c'est un peu celui de la presse, mais sans la pub. Nos supporters forment une grosse communauté. On ne dit jamais aux gens quoi penser, comment voter, on ne ment jamais et on présente tous les côtés d'un problème traité. En même temps, on ne fait pas semblant de ne pas avoir de billets. Les gens peuvent bien dire que je suis un gars de gauche, je prends ça avec un grain de sel. En tout cas, The Rover contraste avec une bonne part des productions infomédiaires, souvent campées à droite. Aux États-Unis, 9 propositions médiatiques en ligne sur 10 penchent vers le conservatisme, selon une analyse récente de Media Matters, basée sur un échantillon de 320 productions. En France, Occidentis, 160 000 abonnés, se donne un rôle dit de « réinformation au quotidien ». Pour lutter contre la prétendue « désinformation générale », pratiquée par les médias de gauche. Au Canada, le site Rebel News, souvent classé à l'extrême droite, a court-circuité les conférences de presse après les débats des chefs des dernières élections fédérales. The Public Record, ou TPR, se revendique au contraire d'une neutralité journalistique à l'ancienne, tout en fonctionnant avec les nouvelles bases du financement populaire et de la diffusion numérique. Le mot d'ordre du mini-média qui couvre l'actualité municipale de la ville d'Hamilton, en Ontario, le présente comme au service de la démocratie. Tout simplement. « Je ne suis pas impartial, non partisan », dit le reporter Joey Coleman, qui a fondé TPR, le premier média socio-financé dans son créneau au pays en 2014. Je dirais que l'information locale ne s'adapte pas facilement aux clivages politiques nationaux. M. Coleman travaille toujours seul et il couvre beaucoup de terrain. En 2018, il a interviewé pour son balado 104 des 155 candidats qui se présentaient aux élections municipales. Alexandre Drolet, elle, ne mise pas que sur l'hyperlocal, au contraire. Elle promet d'expliquer les grands enjeux en information à ses jeunes et moins jeunes abonnés et elle vise grand pour la couverture nationale. J'ai plus de chances d'avoir une entrevue avec Mark Carney que si je restais à Radio-Canada, dit-elle. Si le premier ministre parle à Radio-Canada, il va donner son entrevue de 20 minutes à Patrice Roy à la télé ou à Alec Castonguay à la radio. C'est complètement normal. Cela dit, s'il veut rejoindre un public plus jeune, Mark Carney va venir parler sur YouTube ou sur TikTok. C'était « La montée des info-influenceurs », un texte de Stéphane Baillargeon paru le 16 mai 2025 dans Le Devoir.
Des incendies en hausse alarmante. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 21 mai 2025 dans La Presse. En 2 ans, leur nombre a triplé à Montréal. Les vélos et trottinettes électriques en sont les principaux coupables. Que faire pour prévenir les risques liés à cette source d'énergie? Des trottinettes électriques qui explosent, des cellulaires qui surchauffent. Les pompiers montréalais combattent de plus en plus de feux déclenchés par des batteries lithium-ion, révèle le plus récent rapport annuel du Service de sécurité incendie de Montréal, CIM, qui appelle à la vigilance. Ces batteries qui alimentent une multitude d'appareils posent un réel danger, selon Robert Rousseau, chef de division à la Direction de la prévention et gestion intégrée des risques au CIM. Il rappelle un événement survenu en août 2024 à Montréal qui avait marqué les esprits. Citation, c'était dans Rosemont, la petite patrie. On avait eu l'incendie d'une trottinette électrique qui était dans l'entrée d'un logement. Le citoyen avait dû évacuer par la fenêtre. Fin de citation, relate M. Rousseau, qui y voit un exemple des risques que représentent les batteries. C'est loin d'être un cas unique. En 2024, 71 incendies ont été causés par des batteries lithium-ion à Montréal, révèle le rapport annuel du CIM rendu public mardi. Les vélos et les trottinettes électriques, ainsi que plusieurs équipements électroniques, fonctionnent grâce à cette technologie. S'il s'agit d'un nombre encore marginal par rapport aux quelques 1500 incendies de bâtiments survenus en 2024, cela représente tout de même une hausse importante. En 2023, 43 feux étaient dus au lithium-ion. En 2022, c'était 24. En seulement 2 ans, le nombre d'incendies provoqués par ces batteries a donc pratiquement triplé. Cette augmentation alarmante de 195% est causée en grande partie par la popularité croissante des appareils de micromobilité, soit les trottinettes et les vélos électriques, précise le rapport du CIM. Ils sont d'ailleurs bannis du métro de Montréal depuis décembre dernier. La Société de transport de Montréal, STM, avait alors montré du doigt la « citation, croissance du nombre d'événements de combustion causés par les batteries, notamment en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, ainsi que l'absence de normes régissant la fabrication de ces batteries ». Fin de citation. Des batteries présentes un peu partout. Le lithium-ion est plus présent que l'on pense dans notre quotidien, surtout avec la popularité grandissante du télétravail, souligne Robert Rousseau. Citation, la plupart des gens fonctionnent presque exclusivement avec des ordinateurs portables, des cellulaires, qui marchent surtout au lithium. C'est certain qu'il faut être conscient qu'on accroît le risque. Fin de citation, fait-il remarquer. Outre ces objets du quotidien, les perceuses, les triporteurs, les souffleuses, les tondeuses ou les batteries de drones peuvent contenir du lithium-ion. Citation, tout ce qui en contient est devenu très accessible avec les plateformes d'achat en ligne, sans pour autant qu'on fasse des mises en garde sur la prévention nécessaire. Fin de citation, note le gestionnaire. Citation, l'enjeu, c'est que c'est devenu difficile de connaître la qualité du produit. Fin de citation, renchérit Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Il y a bel et bien des risques, comme il y en a avec l'essence ou toute matière combustible d'ailleurs, donc il faut apprendre aux gens comment les gérer, sans pour autant leur faire peur. Fin de citation. Comment réduire les risques? Pour lutter contre le phénomène, les pompiers de Montréal intensifient leurs efforts de sensibilisation. Les batteries au lithium-ion seront d'ailleurs l'une des thématiques de la traditionnelle semaine de la prévention du CIM en octobre 2025. À la maison, plusieurs précautions aident à prévenir les risques d'incendie. N'utilisez que le chargeur fourni avec vos appareils électroniques à l'achat ou des modèles homologués par une autorité officielle. Si possible, surveillez vos appareils électroniques pendant la recharge. Débranchez l'appareil une fois qu'il est complètement rechargé. Évitez de déposer vos équipements sur ou sous des surfaces molles, par exemple des sofas, lits ou oreillers, qui emprisonnent la chaleur autour de la pile. conserver tout matériel contenant des batteries au lithium-ion dans un endroit doté d'un avertisseur de fumée homologué. Le CIM travaille déjà à des modifications de la réglementation municipale pour mieux encadrer l'usage et le stockage de ces batteries et piles, dit Robert Rousseau. Citation, c'est quelque chose que des villes comme San Francisco et New York ont déjà fait, en disant clairement quel type de pile peut être vendue, avec l'homologation que ça prend, puis l'entreposage requis. Fin de citation, explique-t-il. Citation, on est en train d'étudier ça. Avec les élections municipales en novembre, on regarde davantage pour une application en 2026. On serait probablement la première ville au Québec à légiférer. Fin de citation, ajoute-t-il. Dans l'ensemble du pays, les discussions sont aussi en cours pour modifier le Code national des incendies afin d'y intégrer le risque associé au lithium-ion. En septembre 2024, une cargaison de 15 tonnes de batteries au lithium avait pris feu dans un conteneur du port de Montréal, créant beaucoup de fumée. En raison de son ampleur, il s'agit à ce jour de l'incendie de batteries au lithium-ion le plus important enregistré au Québec. En 2020, les autorités new-yorkaises avaient répertorié 44 incendies liés à ces batteries. 2 ans plus tard, il y en avait déjà 220. Entre 2021 et 2022, la métropole américaine a enregistré 10 décès et 226 blessés lors de tels incendies. Plus de 1500 brasiers. De façon plus globale, les pompiers de la métropole ont combattu 1521 incendies de bâtiments en 2024, un chiffre presque identique à 2023, mais en forte hausse par rapport aux 1300 feux de 2022. Ce sont les articles de fumeurs, notamment les cigarettes, qui ont déclenché la majorité des incendies mortels, soit 7 des 9 enregistrés en 2024. Il s'agit néanmoins d'une amélioration par rapport aux 2 dernières années. En 2023, 17 personnes avaient péri dans des incendies, dont 7 dans le feu qui a détruit un immeuble patrimonial du Vieux-Montréal, alors que le bilan pour 2022 était de 12 morts. Dans la métropole, 79% des incendies sont accidentels et ceux-ci frappent des bâtiments résidentiels dans 78% des cas, selon la Ville de Montréal. Les arrondissements les plus touchés sont Ville-Marie, Villeray-Saint-Michel Parc Extension, Rosemont-la-Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Sud-Ouest, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et Ahuntsic-Cartierville. C'était « Des incendies en hausse alarmantes », un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 21 mai 2025 dans La Presse.